Europe 1.
Europe 1. 15h, 16h, historiquement vôtre.
Le récit, Stéphane Bern.
Soleil.
Nous sommes le 9 décembre 1970. Il est 14h passé de quelques minutes. Et voilà plusieurs semaines déjà que Germaine Soleil fait don de ses conseils et même don de ses dons aux auditeurs d'Europe 1 chaque après-midi en direct dans une émission qu'elle anime avec une célèbre voix de la station, Harold Kay. Une émission qui porte son nom, même si certains auditeurs se mélangent un peu les crayons, comme disent les jeunes.
Allô ? Allô ?
Allô, j'écoute.
Ah, bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur Soleil.
Ah non, non, moi je suis monsieur Rayon de Soleil. Oui. C'est madame Soleil,
oui,
qui est à côté de moi, qui va vous répondre. Monsieur,
bonjour,
je ne suis pas
monsieur
habilité pour le faire.
Oui, bonjour, madame.
Bonjour, monsieur.
Quoi qu'il en soit, cet auditeur, comme de très nombreux autres, a appelé le standard de la radio pour espérer avoir une réponse à sa drôle de question.
Alors, je suis né le 29 décembre 1907, sans doute fin d'après-midi. Alors, la question ?
Oui, monsieur, nous vous écoutons.
J'ai eu un accident de voiture et le volant m'a fait une contusion dans la cage thoracique. Et j'ai des douleurs qui continuent malgré les soins que j'ai eus. Ça fait 4 mois et j'ai passé à la radio, on ne me voit rien, on ne me dit rien. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur mon avenir, sur mon état de santé, comment il va s'arranger ?
Cher monsieur, malgré mon nom, je ne peux pas me substituer au rayon X, bien entendu.
Oui.
Mais enfin, en tous les cas, astrologiquement, je peux vous répondre. D'après votre thème, vous avez des contusions internes, c'est certain. Et elles sont longues à disparaître, d'autant plus que ça semble affecter votre plexus solaire. Alors ça, c'est une zone extrêmement sensible du corps humain et il est certain que pendant très longtemps, vous en souffrirez sans que ce soit, mon Dieu, d'une gravité exceptionnelle. Mais enfin, moi, je vous conseille de continuer à voir votre médecin. Je ne suis pas médecin. On me pose beaucoup de questions au point de vue médical. Je veux bien y répondre dans la mesure où l'astrologie me le permet, mais je ne peux pas aller au-delà.
Elle n'est pas médecin, mais bien astrologue, comme vous l'avez dit, Christian Morin. Elle fait parler les astres et portait le nom de celui grâce auquel la vie sur Terre est possible. Madame Soleil, donc. Madame Soleil qui a animé au siècle dernier plusieurs émissions comme celle que l'on vient d'écouter et l'horoscope en matinée sur les ondes de la première radio de l'époque. Germaine Soleil est restée à l'antenne d'Europe 1 durant 23 longues années, entre 1970 et 1993. Elle est la première star moderne de ce qui est né dans l'histoire comme une science avant d'être considérée comme un divertissement, la première à avoir pratiqué l'astrologie à la radio. Son secret, je vais vous le révéler, en faisant un détour dans l'histoire pour aborder la naissance des arts divinatoires qui ont toujours fait couler beaucoup d'encre. Dans sa fable, l'astrologue qui se laisse tomber dans un puits, La Fontaine s'adresse aux imposteurs ainsi. Charlatans, faiseurs d'horoscopes, quittez les cours des princes de l'Europe, emmenez avec vous les souffleurs tout d'un temps, vous ne méritez pas plus de foi que ces gens. Et comme on le sait, La Fontaine n'a rien inventé, il s'est inspiré d'une fable d'Ésope au VIe siècle avant Jésus-Christ. Je vous propose donc de revenir en compagnie de Madame Soleil sur une histoire plus que millénaire, mais surtout pleine de mystères. C'est un véritable cadeau du ciel qui tombe à l'été 1913 pour Marius et Germaine Soleil. Leur premier enfant, une fille, Germaine, comme sa mère, voit le jour le vendredi 18 juillet à 15h dans le 12e arrondissement de Paris. Ce qui fait d'elle, si mes calculs sont bons, un cancer ascendant scorpion. N'osez pas penser qu'il s'agit là d'un détail inutile. Vous risqueriez de la vexer, car les astres vont prendre dans sa vie la plus grande des places. Dès son plus jeune âge, la petite Germaine apprend à regarder le ciel. Aînée d'une fratrie de 5 enfants, elle passe une partie de son enfance à côté de Blois, dans le petit village de Chailles. C'est son père qui l'incite, une fois le soleil couché, à lever la tête pour observer la lune, les étoiles et même les planètes qu'on distingue parfois à l'œil nu. C'est si beau. Et qu'est-ce que ça brille ! C'est loin aussi, mais la distance qui l'en sépare ne l'empêche pas de ressentir déjà leur présence. Un jour d'orage de 1922, Germaine, 9 ans, est assise sur une pierre tombale du cimetière de son village. Soudain, elle ressent une décharge. Un fluide la traverse de part en part. Ce jour-là, Germaine Soleil découvre son pouvoir. Elle est connectée avec le ciel. Mais pour l'heure, l'enfant garde les pieds sur terre. Germaine Soleil veut devenir médecin. Bon, malheureusement, le destin l'a placée dans une famille pauvre. Son père, mouleur sur bronze et mutilé de guerre, décède alors qu'elle n'est encore qu'une enfant. À 12 ans, Germaine doit enchaîner les petits boulots pour subvenir aux besoins de la famille. Puis, comme de nombreuses femmes de cette époque, elle s'oriente vers des études de dactylographie plus courte et moins chère. La vie ne lui fait pas toujours de cadeaux. Elle travaille comme dactylo dans une maison d'import-export quand sa mère disparaît tragiquement dans un accident de la route. À 20 ans, Germaine Soleil entre à La Volonté, l'hebdomadaire du Parti radical dirigé par Albert Dubarry. En 1934, le journal ferme ses portes à cause de son implication dans le scandale de l'homme d'affaires Alexandre Stavisky. Cet escroc français d'origine russe se retrouve au cœur de la plus grande affaire de corruption de la Troisième République. Quel lien entretiennent-ils exactement ? Difficile à dire. Mais l'on sait que le chalet où Stavisky se réfugie à Chamonix, et dans lequel il trouvera d'ailleurs la mort, est loué au nom de Germaine Soleil. Il aurait pu l'emporter dans sa chute, mais la future astrologue s'en sort sans aucune éclaboussure. En 1935, Germaine épouse un certain Gaston Forgeat, opérateur de cinéma de la Gaumont. Ils auront 3 enfants et en adopteront un 4e. Ensemble, ils ouvrent un magasin de lingerie, mais l'affaire périclite bien vite. À croire que les planètes ne lui sont pas favorables. C'est en tout cas ce que lui dit sa tante Rachel, qui les consulte régulièrement. Diseuse de bonne aventure, elle tient une roulotte à Paris et initie sa nièce au secret de la voyance. Qu'à cela ne tienne, Germaine se lance à son tour dans la grande aventure de l'astrologie. Son pouvoir, qu'elle a découvert enfant, ne l'a jamais quitté. Elle est bien décidée à en faire profiter de potentiels clients. Sous le nom, qui est donc le sien, de Madame Soleil, elle achète une roulotte et écume les foires du pays. D'estrade en estrade, elle sait attirer le chaland. Avec sa gouaille inimitable, elle démontre ses dons pour la divination. Au bout de 2 années passées sur les routes, elle se pose à Paris et s'installe dans le 15e arrondissement de la capitale. Elle ouvre un cabinet de consultation place du Commerce. Le bouche à oreille nourrit sa clientèle qui grossit semaine après semaine. Les clients qui jugent ses prévisions fines et intelligentes sont ravis. Et elle aussi. Madame Soleil l'affirme, plus elle consulte, plus elle gagne en énergie et sent le fluide qui coule en elle s'épaissir. Arnaque ou magie ? Les avis divergent, mais moins qu'aujourd'hui. Les clients sont friands de ses conseils car ils croient en son don de voyance. Pour certains, il s'agit même d'une science. Et au départ, l'astrologie en était bien une. Je vous propose de partir loin de la pollution lumineuse de la capitale pour un bref voyage dans le temps et dans l'espace. Accrochez vos ceintures, un point métaphysique s'impose. Nous, êtres humains, vivons sur Terre, mais c'est bien du ciel que nous venons. La vie est arrivée grâce à la poussière d'étoiles. Nous sommes composés d'atomes vieux de plusieurs milliards d'années provenant du Big Bang ou des étoiles. Rien d'étonnant donc à ce que les hommes aient toujours levé la tête, fascinés par cette étendue mystérieuse qui nous a mis au monde. Le ciel, c'est le plus vieil héritage commun de l'humanité. C'est aussi une source inépuisable de savoir. L'observation du ciel permet de tirer des conclusions scientifiques, marquer le temps par exemple, et définir la journée, le mois, l'année, se repérer aussi grâce à l'étoile polaire qui indique toujours le nord. Au départ, en Chine ou en Mésopotamie, puis en Grèce et dans la Rome antique, l'astrologie et l'astronomie sont étroitement liées. Dans l'Antiquité, les hommes pensent qu'en regardant le ciel, on peut en tirer des indications sur les événements qui vont se produire sur Terre. Le mouvement des planètes serait le moyen d'expression des dieux, un phénomène anormal, une irrégularité dans le schéma habituel du ciel, comme le passage d'une comète, serait un message divin. Reste encore à l'interpréter. Pour identifier ces irrégularités, il faut d'abord comprendre le cheminement des astres. C'est là que l'astrologie et l'astronomie s'entremêlent. Pour expliquer le ciel, les hommes définissent des constellations et inventent des mythes. Ils donnent aux planètes les noms de leurs dieux, Mars, Vénus, Jupiter. Ils prennent comme repère le trajet du Soleil dans le ciel et le séparent en 12 parties égales, 12 parties de 30 degrés, 12 parties qu'on va appeler des signes. Avec l'avènement du christianisme, ce ne sont plus les dieux, mais un dieu unique qui communique à travers le ciel. Dieu nous parle et nous pouvons, nous devons même, interpréter les événements. Les mages n'ont-ils pas cru au signe d'une étoile ? Saint Augustin le dit lui-même, tout est signe, mais seule l'Église a le droit d'interpréter les volontés de Dieu. Les voies du Seigneur sont impénétrables, celles du ciel sont accessibles pour une poignée de privilégiés. Au Moyen-Âge, on considère que les astres influent sur l'homme et ses humeurs, établies par Hippocrate, je le rappelle, et déterminent ainsi le caractère de chaque individu. Au XIIe siècle, les savants arabes contribuent au renouveau de l'astrologie en traduisant les traités des auteurs grecs qui seront ensuite retraduits en latin. À cette époque, 40% des traductions sont des traductions astrologiques. C'est dire l'importance de la discipline chez les savants. L'observation des astres devient un enseignement dans plusieurs universités européennes. Au même moment, des astrologues s'invitent dans les cours. Au XVe siècle, les rois de France ont leurs astrologiens, censés les aider à prendre des bonnes décisions. On dirait astrologue aujourd'hui, évidemment. À cette époque, ce ne sont pas les signes solaires qui définissent les personnalités, contrairement à aujourd'hui, mais les ascendants. L'ascendant, c'est le signe du zodiaque qui se lève à l'horizon à l'instant précis de la naissance d'une personne, vue depuis leur lieu de naissance. C'est lui qui domine le thème astral d'une personne et qui a donné le mot « horoscopos » dans l'Antiquité. Au XVIe siècle, les astrologues de Catherine de Médicis insisteront sur le fait qu'elle soit ascendant bélier comme son époux le roi de France Henri II. Les opposants de cette Italienne qui devient reine de France en 1547 sont nombreux et vont l'être encore plus au moment des guerres de religion. Dans leurs attaques à son égard, ils ciblent particulièrement son goût pour l'astrologie. Il est vrai que Catherine de Médicis consulte régulièrement ses astrologues, parmi lesquels les célèbres Combes, Ruggieri et Nostradamus. Le XVIe siècle marque une rupture entre l'astronomie et l'astrologie. De grandes découvertes bouleversent nos connaissances en astronomie. L'espace acquiert une dimension de profondeur. Le dessin des constellations réalisé sur un ciel plat devient donc totalement obsolète. Autre coup dur pour l'astrologie, l'affaire des poisons, dans laquelle aurait trempé la marquise de Montespan. La favorite de Louis XIV aurait participé à un projet d'empoisonnement du roi et du dauphin avec la célèbre Lavoisin dans les années 1670. En 1682, un texte officiel condamne alors les devins, les magiciens et enchanteurs qui exploitent la crédulité publique sous prétexte d'horoscope et de divination. Les révolutions scientifiques des XVIIe et XVIIIe siècles achèvent de placer l'astrologie dans la voie de l'obscurantisme. Newton comprend que le cosmos est infini. Galilée pose un nouveau principe. Les événements doivent être expliqués de manière objective, indépendamment de la personne qui les explique. L'astrologie devient l'apanage de voyantes qui opèrent en secret, jusqu'à ce que les Madame Irma reviennent sur le devant de la scène au XXe siècle. La presse consacre le retour de l'astrologie avec les petites annonces et les horoscopes. Le tout premier horoscope a été retrouvé dans les pages de Gil Blas. D'autres journaux s'en sont ensuite inspirés. Les horoscopes ne sont pas classés par signe. La position des astres est interprétée pour tout le monde. L'un d'eux annonce « Dans son influence générale sur les individus, la Lune incite lundi 7 aux études occultes et à l'entraînement psychologique, volonté, maîtrise, ainsi qu'aux inventions et découvertes. » Dans les années 60, ils explosent. Tout le monde veut connaître son avenir. Et c'est dans ce contexte qu'arrive enfin notre rayon de soleil. Nous sommes le 1er août 1970 et Madame Soleil est à l'honneur dans l'émission Panorama de Pierre Dumayet. Nombreux devant leur écran, les téléspectateurs découvrent pour la première fois cette petite femme. Rondelette, les cheveux relevés en chignon, elle a le regard vif et la voix assurée. Filmée chez elle, assise derrière une table recouverte de gros annuaires astrologiques, Germaine leur fait part de son pouvoir, celui qu'elle a découvert adolescente dans son petit village de Loir-et-Cher. Mais c'est quelques jours plus tard que Germaine Soleil s'apprête, sans le savoir, à devenir une star de la radio, grâce à ses consultations en direct. Cette idée, c'est à Lucien Maurice qu'on la doit. Le directeur des programmes d'Europe 1 de l'époque, qui fréquente lui-même des médiums, la repère et souffle l'idée de la recruter au directeur d'alors, Maurice Siegel. Sceptique au départ, Siegel décide finalement de lui confier un créneau quotidien d'une heure en direct pour concurrencer les conseils de Ménie Grégoire à la même heure sur la radio rouge RTL. Hélas, Lucien Maurice ne l'entendra jamais. Il met fin à ses jours, 3 jours avant que Germaine ne commence à mettre du soleil sur les ondes. Le 14 septembre 1970 à 14h, c'est le jour J.
Soleil, 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 soleil sur Europe 1.
L'émission s'appelle Madame Soleil, comme elle. La première d'une longue série de rendez-vous radiophoniques qui vont passionner les Français pendant de longues années. Au fil du temps et des patrons, les émissions changent de nom. Madame Soleil devient Madame Soleil à minuit avant de revenir en milieu d'après-midi au milieu des années 80 avec Allô, c'est à vous, animé avec Viviane Blassel et un certain Christian Morin, qui est notre invité donc cet après-midi et surtout l'un des animateurs phares d'Europe 1. Si les noms et les acolytes changent, la formule, elle, ne bouge presque pas. Chaque jour, Madame Soleil reçoit des appels par centaines et des courriers, à la radio et même chez elle, d'auditeurs et auditrices qui la mitraillent de questions sur leur avenir. Elle répond à chacun et conclut souvent l'entretien avec la même formule encourageante « Tenez bon, mon petit ». Madame est un vrai rayon de soleil, toujours calme, rassurante. Elle inspire confiance et apporte soutien à celui dont chacun a besoin. « Je suis le notaire, dit-elle. Je suis l'avocat, je suis le médecin, je suis l'ami, je suis le père confesseur, je suis même celui à qui l'on demande un tout petit peu du mystère, parce que du mystère, on en a besoin. » Elle est, selon ses dires, à 50% astrologue, à 50% psychologue. Dit-elle toujours la vérité, rien que la vérité? Des choses graves, oui, elle en a déjà dites. Un jour, un chef de gouvernement en visite en France, elle dit qu'il mourrait s'il revenait dans son pays. Et c'est ce qui arriva, affirmera-t-elle. Un autre jour, elle dit à une personnalité qui faisait de la recherche scientifique qu'il lui restait peu de temps à vivre et qu'il lui fallait faire vite pour mettre au point une thérapeutique. Et c'est ce qui arriva, confiera-t-elle aussi. Mais quand une personne est sur le point de mourir, elle préfère ne pas lui dire. Puisqu'elle ne pourrait l'empêcher, pourquoi infliger une peine inutile à quelqu'un? Quand c'est absolument nécessaire, il arrive à Madame Soleil de mentir, c'est le principe de sa déontologie. Jamais de mauvaises nouvelles que le consultant ne saurait encaisser. Mais quand elle ment, c'est toujours à bon escient. L'astrologue a une grande empathie pour ses interlocuteurs. Elle se sent responsable de tous les gens qui l'appellent. Selon elle, c'est ça la clé de son succès. Un jour, une journaliste lui demande si elle n'exploite pas la crédulité des Français. Elle lui répond d'un ton assuré. « Ce n'est pas une exploitation, chère madame. Quand je garde quelqu'un une heure et qu'il repart de chez moi avec une énergie accrue, avec le sentiment qu'il peut triompher d'une difficulté, j'ai l'impression que je lui ai fait du bien. » Et les sceptiques? Ils ne sont pas obligés de croire à ce que je fais, répond-elle. Nous nous expliquons, et quand je leur donne une bonne vérité en face, ben tout de même, ça les ébranle. Mais ils viennent aussi la voir. Voilà l'autre clé du succès de Madame Soleil, le contexte de son époque. Cette époque angoissante qui va d'une civilisation à une autre pose des problèmes à tout le monde et je réponds peut-être à un besoin de cette époque. Son émission cartonne, le standard est constamment saturé. On enregistre certains jours jusqu'à 30 000 appels. Sur RTL, Méni Grégoire, pourtant à l'antenne depuis 1967, est battu par cette nouvelle venue. Sa renommée est telle que son nom gravite dans les plus hautes sphères. Le président lui-même va la citer lors d'une conférence de presse en 1971. À une question d'un journaliste polonais au sujet d'un problème d'avenir, Georges Pompidou lui répond.
« Monsieur, je ne suis pas un diplomate, mais je ne suis pas non plus Madame Soleil. » N'est-ce pas ?
Cette petite phrase consacre à jamais la célébrité de l'astrologue préféré des Français. Si le destin de Madame Soleil est étroitement lié à l'histoire de notre station, il n'y a pas qu'à la radio que l'astrologue officie. Tous les médias se l'arrachent. Lorsqu'elle est invitée dans une émission, le public est au rendez-vous. En ce qui concerne les audiences, les prévisions s'avèrent justes. À la fin des années 80, Germaine participe à la célèbre émission de Jacques Martin, « Le monde est à vous ». Elle devient ensuite l'astrologue attitrée du club Dorothée sur TF1 entre 1988 et 1994.
Maintenant, si vous voulez bien, je le retrouver. Dorothée en compagnie de Madame Soleil.
Ça va, Germaine?
Ben, ça va très bien,
toujours
Dorothée.
En pleine
forme. Ben oui, avec la rentrée, voyons. Eh bien, justement, on va travailler avec les vierges.
D'accord.
Qui sont les plus studieux, hein, et les plus sages.
Entre-temps, sa voix chaude quitte l'antenne de la radio qui l'a propulsée sur le devant de la scène. Madame Soleil donne ses dernières prédictions sur Europe 1 en septembre 1993, après 23 ans de bons et loyaux services. Forte de son succès, l'astrologue habite un bel appartement avenue de Suffren, entre les 7e et 15e arrondissements de Paris. Elle reçoit en toute discrétion les plus grands noms du pays. Veuve de son premier mari, elle épouse en seconde noces un cadre commercial, René Moritz, rencontré lors d'une séance de voyance. Ce qui nous amène au sujet qui en intéresse plus d'un. Les astres peuvent-ils prédire l'amour? On l'écoute.
En matière d'astrologie, il est difficile de prévoir le moment où quelqu'un sera atteint du coup de foudre. Mais ce qu'on peut prévoir, ce sont ceux qui sont plus exposés les uns que les autres. C'est le cas naturellement des signes de feu, puisqu'il s'agit d'un coup de foudre, c'est un peu normal. Et parmi ceux-là, le bélier. Avec son impulsion, il est certain que le coup de foudre chez lui est en somme violent, passionné, immédiat.
Après une vie passée à aider celle des autres, d'une manière des plus originales, certes, Madame Soleil s'éteint le 27 octobre 1996, à l'âge de 83 ans. L'avait-elle vu venir ? L'histoire ne le dit pas. Quoi qu'il en soit, Madame Soleil inspire des générations entières d'astrologues. Sa disparition n'entraîne pas celle de son Minitel. Après sa mort, des publicités pour 3615 Soleil passent encore sur les chaînes de télévision françaises. Avait-elle raison ? Avait-elle tort ? Le principe de l'astrologie est resté le même aujourd'hui. Si la prédiction se réalise, c'est une preuve. Si la prédiction ne se réalise pas, ça prouve que l'homme dispose quand même d'un libre arbitre. Comme l'écrivait Voltaire avec humour, un astrologue ne saurait avoir le privilège de se tromper toujours.
Europe 1, historiquement vôtre.